ça vaut le détour.
Bonjour, bienvenue à Ça vaut le détour, édition du mardi 8 mars 2016. Ici Maxime Despomerleau, très heureuse de vous retrouver. Je vais passer la prochaine heure avec vous. Ça vaut le détour, nous sommes en direct tous les lundis, mardis et mercredis midi. J'en profite pour vous souhaiter à tous et à toutes une bonne journée des droits des femmes et à toutes les femmes et à tous les hommes qui nous écoutent. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Twitter avec le mot-clic CVLD ou @canal_M. Vous pouvez nous soumettre des sujets qui vous touchent ou commenter sur l'actualité. Aujourd'hui, émission féminine, nos quatre invités sont des femmes. On discute avec l'artiste Sophie Chabot au sujet d'un projet artistique intitulé DI ou ID, déficience intellectuelle ou intelligence différente, qui présente des œuvres picturales réalisées à partir des créations des participants qui ont été invités à prendre part à des ateliers créatifs en sa compagnie. On lui parle à 12h45. Isabelle Ducharme sera dans nos studios pour la chronique Tourisme de Kéroul, où elle revient sur son récent périple au Mexique. Elle nous donnera des trucs pour bien planifier un voyage à l'international, mais surtout comment faire face aux imprévus. Restez à l'écoute, elle aura de bonnes anecdotes pour nous. On s'entretient avec Thérèse Sirois, directrice de la ressource d'aide aux personnes handicapées pour les régions du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et Île-de-la-Madeleine. La ressource travaille avec les organismes communautaires et gouvernementaux pour améliorer la qualité de vie des personnes ayant une déficience ainsi que celle de leur famille. On profite aussi du 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes, pour s'entretenir avec Bonnie Brayton, directrice exécutive nationale du Réseau d'action des femmes handicapées du Canada, et pour faire un bilan des acquis, mais aussi des défis qui restent à relever dans la société en général, mais surtout les enjeux qui concernent particulièrement les femmes en situation de handicap. On la joint au bout du fil. Bonjour, Madame Brayton.
Bonjour, Maxime.
Merci d'être avec nous ce midi.
Bien, merci beaucoup de nous faire venir.
Donc, d'abord, on va commencer par décrire le Réseau d'action des femmes handicapées du Canada. Comment ça a été créé et quelle est votre mission?
Bien, merci beaucoup pour cette belle question. Le Réseau d'action des femmes handicapées, DAWN Canada en anglais, c'est un acronyme pour Disabled Women's Network of Canada, puis encore en français, notre nom, Réseau d'action des femmes handicapées du Canada, a été créé vraiment au niveau intéressant, au niveau d'une histoire avec le gouvernement, car il y avait le département de conditions féminines Canada, peut-être pas au même nom dans le temps, et le bureau des personnes handicapées, encore peut-être pas le même nom il y a 30 ans, qui se sont rendus compte que dans le secteur des femmes et dans le secteur des personnes handicapées, on voyait qu'il n'y avait vraiment pas une préoccupation sur l'intersection de genre et handicap. Et sachant ça, ils ont dit, on va aller chercher les femmes leaders au Canada, les faire venir ensemble et voir qu'est-ce qu'ils vont dire à nous autour de cette préoccupation. Et finalement, c'est comme ça que notre organisation a fait son début il y a 30 ans, le 22 juin 1985.
Et donc, tout de même 30 années d'action.
C'est ça, 30 ans de service cette année, Maxime.
30 ans de service. Quels sont les principaux dossiers sur lesquels vous travaillez?
Bien, au niveau de notre mission, et encore, je répète qu'on est une organisation féministe pan-canadienne, qui inclut toutes les handicaps. Et notre mission est de mettre fin à la pauvreté, à l'isolement et à la discrimination et la violence qui connaissent les femmes en situation de handicap et les femmes sourdes. On ouvre sur l'avancement et l'inclusion des femmes et jeunes filles vivant en situation de handicap ainsi que les femmes sourdes partout au Canada. Et on fait ça sous un mantra de leadership, partenariat et réseautage.
Donc, justement, comment est-ce que ça se développe, ce mantra-là de leadership, partenariat et réseautage?
Ben, c'est une belle question encore, Maxime. Vous posez des belles questions, je te jure. Alors, au niveau de ça, c'était vraiment, il y a peut-être 5 ans, quand on a regardé vraiment, tu sais, les problèmes énormes face aux femmes en situation de handicap, on s'est dit, c'est clair qu'après, dans le temps, c'était 25 ans, sans, tu sais, sans des partenaires et sans l'engagement d'autres personnes, d'autres leaders, c'est pas possible pour de résolution des femmes, de répondre toute seule à les problématiques des femmes en situation de handicap. Alors, on s'est dit que c'est maintenant important de se réorienter vers les partenariats et vraiment, comme j'ai dit, l'engagement de leadership, non pas juste la nôtre, mais le leadership de les autres personnes autour de nous, tu sais, les politiciens, les groupes de femmes, les organisations personnes handicapées. Au niveau politique, c'est sûr que c'est très important qu'on ait un engagement au niveau de leadership, tu sais, pas juste ici à Québec, mais partout au Canada puis dans le monde, parce que, dans le fond, tu sais, on est la plus grande majorité minorité au monde, avec plus qu'une demi, c'est quoi en français, billion, milliard?
Oui.
Un demi-milliard. Alors, qui porte encore à la question, comment ça se fait qu'avec cette grande, encore une sur cinq femmes au Canada, mettons une sur cinq femmes au Québec, avec toutes ces femmes face avec tous ces problèmes-là, comment peut une petite organisation comme Dawn faire tout ça, toute seule? Alors voilà, notre mantra et la raison pour ça, c'est plutôt devenu notre approche stratégique, si tu veux, avec le temps, on a élaboré ça un peu plus. Mm-hmm. Et c'est vraiment rendu, tu sais, notre approche, comme exemple, quand on va regarder un problème ou une situation, c'est vraiment, tu sais, OK, on va chercher les... toutes les fêtes, mais après ça, il va falloir qu'on regarde autour de nous qui travaille sur ces questions. Peut-être pas pour ces femmes, les femmes en situation de handicap, mais mettons qui travaille sur la question pour autres femmes. Mm-hmm. Après ça, notre prochaine étape, c'est de développer un partenariat avec les personnes et les organisations qui sont sur cette question et commencer à les faire savoir comment intégrer l'inclusion des femmes en situation de handicap dans leur travail.
Mm-hmm. J'aimerais qu'on aborde plus spécifiquement certains enjeux. Parlons de la pauvreté. Les femmes avec un handicap sont souvent plus pauvres que la moyenne. Quels sont certains facteurs qui expliquent ça?
Bien, c'est dans le fond, les plus pauvres au Québec et au Canada, c'est les femmes en situation de handicap. On est vraiment, c'est pas exagéré au niveau statistique, on parle de, tu sais, avoir les moyens les plus bas au Canada. Mm-hmm. Le taux de non-employabilité de les femmes en situation de handicap, Maxime, est entre 50 et 75 dépendant où au Canada elles demeurent. Alors, quand on parle de les taux de non-employabilité comme tel, on sait tout de suite qu'il y a une pauvreté importante qui est un résultat. Je pense qu'une autre chose importante à faire savoir à les gens, c'est que beaucoup de femmes en situation de handicap se ramassent dans des situations familiales où c'est elle qui va normalement être la personne qui va être les aidants naturels à les autres personnes. Mm-hmm. Donc, elle est plutôt nommée comme la personne être l'aidant naturel dans la famille plutôt qu'être la femme qui va aller chercher ou gagner sa vie. Et encore, c'est pas quelque chose qui se fait, on peut pas dire que c'est une oppression qui se fait par exprès, mais c'est une oppression au niveau sociétal de notre société qui n'est pas encore vraiment compris. Puis c'est vraiment perturbant parce que, comme je mentionne, il y a plusieurs enjeux. Mm-hmm. Il y a la non-valorisation d'une femme en situation de handicap. Il y a souvent la question de si elle peut avoir accès à l'éducation secondaire et universitaire. C'est pas tout à fait toujours ça maintenant, mais encore au niveau de les barrières pour aller au travail, on n'a que regarder autour de nous ici à Montréal comment ça peut être difficile si on est une femme en situation de handicap de pouvoir trouver de travail. Une fois qu'on trouve le travail pour avoir accès au travail, au niveau de notre transport, au niveau de stationnement, au niveau de toutes sortes de choses complexes, il y a toujours des sous-barrières pour, mm-hmm. pour elle.
Justement, qu'en est-il au niveau de la violence faite envers les femmes en situation de handicap et particulièrement les cas spécifiques de la violence conjugale?
Oui.
Est-ce qu'on est capable de dresser un portrait ou d'identifier des Ben,
problématique. c'est sûr qu'il y a beaucoup de les mêmes choses en commun avec les autres femmes au niveau de la violence conjugale. La chose que je peux vous dire, c'est au niveau des statistiques, Maxime, ce qu'on sait, c'est que dans les femmes en situation de handicap, c'est sûr qu'on peut voir que c'est plus souvent répété. Autrement dit, c'est pas juste des incidents un peu partout, mais c'est quelque chose qui se répète. Au niveau de la violence conjugale spécifiquement pour une femme en situation, imagine si vous êtes dépendant de votre situation, dépendant sur votre conjoint pour vos besoins personnels. Vous avez besoin de votre conjoint pour avoir accès à, tu sais, à la banque, quoi que ce soit, au docteur et tout. Donc, on se retrouve dans une situation de vulnérabilité, excusez-moi, plutôt parce qu'on est dépendant sur les autres. Donc, il y a cet aspect d'être une femme dépendante de son handicap qui la met plus vulnérable au niveau de la violence conjugale.
Sur votre site, on remarque aussi une...
Est-ce que je peux juste aussi rajouter quelque chose d'intéressant pour votre audience aussi, Maxime? Et c'est que une chose que j'aimerais mentionner qui est beaucoup, beaucoup moins regardée, mais très importante, c'est que beaucoup de femmes deviennent handicapées par la violence conjugale.
C'est
Et
effectivement
c'est pas
une
encore
information
vraiment
très importante.
parlé ou élaboré assez, mais c'est vraiment important de penser à ça et de garder cette réflexion aussi. Tu sais, on regarde les taux d'Alzheimer dans les femmes maintenant. Puis il commence maintenant à avoir des recherches qui disent ou qui supposent qu'il y a probablement les liens entre le nombre de fois qu'elle s'est faite battre, tu sais, à la tête, son cou ou quoi que ce soit, qui deviennent plus tard un handicap très important qui est l'Alzheimer. Un exemple, c'est vraiment, tu sais, spécifique sur cette question de violence conjugale et qu'est-ce que ça peut porter plus tard dans sa vie.
Tout à fait. On remarque sur votre site une sensibilité aussi envers les questions qui touchent les femmes autochtones.
Oui, et encore, tu sais, quand on parle de l'intersectionnalité, c'est un terme qu'on utilise beaucoup dans notre travail. Alors, l'intersectionnalité, la première auquel on se parle, c'est sûr, c'est le genre et l'handicap. Mais les autres intersectionnels, étant, mettons, une femme autochtone ou, mettons, une femme immigrante ou racialisée, porte encore plus de risques de violence qu'elle va recevoir. Puis quand on regarde même, c'est la grande préoccupation qu'il y a en ce moment pour les femmes autochtones disparues et tuées, que dans cette cohorte de femmes, c'est sûr qu'il y avait un nombre important de femmes qui étaient des femmes handicapées. Elle s'est peut-être pas nommée comme une femme handicapée, mais une femme qui vit avec, je suis désolée, Maxime, post-traumatic stress, c'est quoi en français?
Choc post de stress post-traumatique en fait.
Oui, un bon exemple. Tu sais, c'est encore quelque chose qui se fait pas nommer, mais quand on parle, c'est de l'abus sexuel dans l'enfance, on se ramasse plus tard avec beaucoup de difficultés dans notre vie. Tu sais, des femmes en prison, un autre bon exemple, c'est des femmes en prison. Un grand nombre des femmes en prison en ce moment, c'est des femmes avec des traumatismes crâniens. Et encore, tu sais, ça veut dire qu'on est en train de criminaliser des femmes qui sont victimes de violences. Puis parce qu'une femme avec un traumatisme crânien, des fois, au niveau de son comportement, elle a de la difficulté, mais c'est vraiment lié à son handicap. Mais encore, tu sais, plutôt que d'aider cette femme, c'est de l'aider à trouver les soutiens qu'elle aurait besoin, elle se ramasse souvent dans la rue. Un peu plus tard que dans la rue, elle se ramasse en prison.
Oui, donc
Ou dans le travail de sexe, un autre exemple.
on voit qu'il y a quand même vraiment des problématiques, elles sont complexes
Complexe
et à
et
résoudre.
encore avec une longue histoire en arrière de ça. Tu sais, on parle pas de quelqu'un qui commence sa vie comme ça, mais elle devient de plus en plus handicapée, si tu veux, avec toutes les choses, les enjeux qui viennent devant elle. Puis, tu sais, au lieu d'aider cette femme, comme je mentionne, on est en train de l'éloigner de l'aide qu'elle aurait besoin.
Effectivement.
Oui.
Bonnie Brayton, on va se laisser sur cette dernière question. En cette journée du 8 mars,
Oui.
le mouvement féministe est-il accessible aux femmes en situation de handicap?
Oh, c'est une question difficile à aborder. Aujourd'hui, pour moi, je peux vous dire aujourd'hui, je suis un peu préoccupée avec cette question, Maxime, parce que, tu sais, il y a une grande différence entre l'égalité et l'équité. Et on parle beaucoup le 8 mars de l'égalité entre femmes et hommes. Mais si on parle de l'égalité sans vraiment regarder plutôt qu'est-ce qui est l'équité, on est vraiment en train d'échapper qu'est-ce qui est vraiment le point de la Journée internationale pour les femmes, qui est, ça doit être surtout pour les femmes qui sont les plus vulnérables, qui visent plus de discrimination. Et malheureusement pour nous, ce qu'on voit autour de nous, c'est beaucoup de... Puis c'est vraiment, il y a un bel mot en anglais qui est « ableism », qui ne traduisent pas tout à fait comme capacitisme, mais ce que je vois autour de moi, malheureusement, pour le 8 mars, c'est beaucoup une tendance à mettre de côté le concept d'équité en faveur de, tu sais, le bel mot « égalité », mais entre les femmes en situation de handicap et les autres femmes, on n'a pas encore l'égalité. Puis c'est très important que tout le monde comprenne qu'il faut mettre les femmes les plus marginalisées au centre des questions d'égalité avant qu'on va vraiment réussir pour toute femme. Parce que avant ça, c'est vraiment juste un message d'égalité qui est fausse et pas vraiment basé sur la réalité des femmes qui ont les plus grandes difficultés.
Merci beaucoup. Bonnie Brayton, vous êtes directrice exécutive nationale du Réseau d'action des femmes handicapées du Canada. Merci d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui.
Bien, merci beaucoup de les avoir posées, Maxime. Bonne journée à vous et toutes à votre audience. Merci beaucoup.
Merci. Bye. J'en parlais en début d'émission. On jette un œil du côté des régions du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. On découvre aujourd'hui les services offerts par la ressource d'aide aux personnes handicapées. Je joins au bout du fil la directrice, Madame Thérèse Sirois. Madeleine Thérèse Sirois?
Thérèse Sirois.
J'avais terminé de lire, en fait, Île-de-la-Madeleine. C'est pour ça que j'ai confondu. Je suis désolée.
Il n'y a pas de problème.
Donc, Madame Sirois, vous êtes directrice de la ressource d'aide aux personnes handicapées. Pouvez-vous nous parler d'abord de l'historique et de la mission de la ressource?
En fait, l'historique de la ressource, on est là, nous, on est à notre 20e année de vie, si vous voulez. On aura 20 ans au mois de juin cette année. Cet organisme-là a été créé vraiment par un besoin que les personnes handicapées avaient. À l'époque, pour faire un petit historique, on était anciennement l'Association de la paralysie cérébrale. On était un des chapitres de l'Association de la paralysie cérébrale du Québec, qui, on se rappellera, à l'époque, avait le Téléthon sur les ondes de TVA, les grandes chaînes télé et tout ça. Et ils se ramassaient ici, dans le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, les îles, 300 000 $ aux environ par année, qui était retourné au bureau général, si vous voulez, et qui était ensuite redistribué au prorata de la population. Donc, c'est bien sûr que souvent, on manquait de vivre avant la fin de l'année et que les gens qui avaient des besoins, leurs besoins n'étaient pas nécessairement répondus parce que la population n'est pas la même. Mm-hmm. Donc, suite à tout ça, et c'est vraiment là, un mouvement qui s'est installé, si on veut, où les personnes handicapées, on dit, ben, on va commencer par être généreux avec nous-mêmes et ensuite on verra si on peut aider les autres. Et c'est là que la ressource d'aide aux personnes handicapées a vu le jour.
On va parler des différents services que vous offrez.
Oui, c'est ça. En fait, la gamme des services est assez vaste. On a, sur tout le territoire de la ressource, il y a environ, là, bon an, mal an, de 1200 à 1400 personnes qui profitent de nos services. Ce sont tous des personnes qui vivent avec un handicap et de toute forme, que ce soit au niveau de la déficience visuelle, intellectuelle, physique. Il y a vraiment, là, toutes les formes de handicap, de 0 à 99 ans. Les services qu'on offre à ces gens-là, c'est vraiment... on est le dernier recours, on le dit, là, comme à peu près tous les organismes communautaires. Donc, quand, pour une raison ou une autre, les personnes qui ont besoin d'aide ou de soutien, leur besoin n'est pas répondu dans le réseau par l'État pour différentes raisons, soit qui ne correspondent pas aux critères d'admissibilité du réseau de la santé, entre autres, qui est la raison la plus fréquente là, qu'on rencontre. À ce moment-là, ce sont quand même les intervenants du réseau de la santé, les spécialistes du réseau de la santé, qui nous réfèrent les gens chez nous en nous disant, écoutez, on est allé voir les différents programmes qui existent et la personne ne peut pas avoir l'équipement dont elle a besoin. Là, à partir de ce moment-là, nous, ce qu'on enclenche de notre côté, si vous voulez, c'est vraiment bon, les soumissions, on évalue la demande et c'est bien sûr là, selon nos budgets qui sont parfois, pas parfois, mais je voudrais tout le temps tributaire là, de la génération, de la générosité du public, là, c'est bien certain. Donc, à partir de là, nous, on voit là, de quelle façon on peut soutenir la personne. Parfois, ce sera en payant l'équipement en totalité, parfois, ce sera en partie, mais au moins, on essaie ce qu'on fait, en fait, la ressource, c'est vraiment d'essayer de s'adapter aux besoins des gens plutôt que ce soit l'inverse. Donc, notre mission première, c'est vraiment là, l'intégration des personnes handicapées dans toutes les sphères d'activité. On sait très bien que si une personne veut, on parle beaucoup d'intégration sociale, l'intégration des personnes handicapées sur le marché du travail, dans le milieu scolaire et tout ça. On peut pas juste en parler, il faut poser des gestes aussi. Et que parfois, le fait de pas avoir un équipement, de pas avoir accès à certains services, va entraver là, cette situation-là, va faire en sorte que la personne se retrouve confinée chez elle, peut pas sortir parce qu'elle n'a pas la rampe d'accès pour sortir, qu'elle n'a pas l'équipement. Donc, c'est vraiment ce que nous, on essaie de faire. Là. Je vous dirais que c'est la grande partie de notre budget là, est consacrée à ce service-là, entre autres. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup au niveau aussi de l'information, de l'orientation. Quand on apprend qu'on a un enfant handicapé ou qu'on apprend qu'on a une maladie dégénérative, souvent on se perd un peu dans les dédales du réseau de la santé. C'est parfois long avant d'avoir des réponses. On ne sait pas, on connaît pas les programmes, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on doit faire maintenant. Donc, on va souvent l'orienter les gens, les accompagner là, dans les différentes démarches qu'ils ont à faire là, tout au long des mois qui viennent, puis parfois ben ça dure plusieurs années. Ça peut être quelque chose de très précis dans le temps, un besoin que les gens ont une fois, ou si c'est un jeune enfant, souvent ça va être sur plusieurs années parce que là, l'enfant grandit, change et tout ça. La personne adulte, ça peut être très ponctuel, mais comme je le disais tout à l'heure, on essaie vraiment de s'adapter aux besoins des gens.
Vous avez aussi des programmes d'activité sociale.
Ben en fait, excusez-moi, j'ai comme...
Un petit chat dans la gorge.
Un petit chat dans la gorge. En fait, ce programme-là, c'est vraiment aussi plus au niveau d'une aide financière qu'on va apporter aux gens là, qui veulent aller, exemple, dans les camps de vacances, faire certains loisirs. Pour les parents, ça peut être une forme de répit, d'avoir les sous pour être capable d'engager quelqu'un ou de payer une partie, parce que comme je le disais tout à l'heure, nos budgets sont quand même assez restreints. Mais une certaine contribution financière qui fait en sorte que la personne est capable d'aller dans un camp de vacances spécialisé ou qui va être capable d'aller dans un terrain de jeu, qui va être capable de faire certaines sorties ou certaines activités. On sait que souvent, il y a des organismes, nous ici, en tout cas en région, il y a plusieurs organismes qui existent et qui sont là vraiment. Leur mission, c'est vraiment au niveau des activités, au niveau d'activités sociales ou physiques et tout ça, et qui doivent charger une certaine contribution aux personnes. On sait très bien que les personnes qui vivent avec une différence et les familles, c'est pas nécessairement des gens, malheureusement, qui sont très souvent sous le seuil de la pauvreté. Donc, même si l'activité est pas très onéreuse, parfois, on n'a même pas le moyen d'aller faire cette activité-là. Fait qu'à ce moment-là, il y a des demandes qui nous sont faites encore pour un soutien financier afin de sortir les gens là, de leur isolement le plus possible.
Oui. Madame Sirois, il nous reste quelques minutes. J'aimerais qu'on parle du fonds Marie-Ève Leclerc, qui pallie au fait qu'il est difficile d'obtenir une assurance-vie pour des personnes qui vivent en situation de handicap. C'est vraiment une très belle initiative.
Oui, c'est ça. En fait, ça a été fait à partir... il y a un de nos membres qui est décédé il y a déjà une dizaine d'années de ça. Et les parents voulaient donner les sous à la ressource, là, au décès. Donc, nous, ce qu'on a fait avec cet argent-là, il y avait à l'époque... qui avait mis des sous aussi comme pour partir ce front-là, parce qu'on sait que malheureusement, quand une personne est handicapée, très souvent, elle n'est pas assurable au sens, selon la réglementation là, des assurances et tout ça. Donc, ça fait en sorte que, encore là, la famille se retrouve avec une charge supplémentaire. Mm-hmm. Fait que quand ça arrive à l'occasion, on a ce front-là, on n'est pas très riche non plus dans ce fonds-là, mais on peut apporter là, un certain soutien pour pallier là, au manque financier là, qu'il peut y avoir parfois lors de funérailles et qui peut permettre au moins, en tout cas, à la famille d'avoir une cérémonie ou accompagner là, dans leur dernière demeure, si on veut, là, les gens de qui se sont tellement occupés là, tout au long de leur vie.
Mm-hmm. Donc, on voit vraiment que la ressource, au final, c'est de veiller à une intégration sociale, mais surtout à la dignité des gens qui vivent en situation de handicap et de leurs proches.
Oui, tout à fait. Vous avez la phrase vraiment très, très exacte. C'est vraiment ce qu'on tente de faire du mieux qu'on peut. Comme je le disais tout à l'heure, on est tributaire de nos budgets. On reçoit pratiquement pas de subventions dans le programme de soutien aux organismes communautaires du réseau de la santé. On reçoit sur un budget de 450 000 $ environ par année. On reçoit à peine 40 000 $ en soutien. Fait que tout le reste de l'argent qu'on a besoin pour répondre aux besoins de nos membres et tout ça, d'être capable de continuer notre mission. Il faut aller le chercher en faisant des activités de financement et tout ça. Là. Et c'est comme ça, depuis 20 ans, je vous dis que ça nous demande quand même beaucoup de notre temps à ce niveau-là là, afin de pouvoir continuer. Il faut y croire. Il faut y croire très fort pour pouvoir continuer là, à tenir cet organisme-là là, encore après 20 ans là, debout.
Bien, je vous souhaite que ça continue longtemps, que vous soyez capable de rester à flot encore très longtemps. Thérèse Sirois, vous êtes directrice de la ressource d'aide aux personnes handicapées pour les régions du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, des îles de la Madeleine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Bien, ça me fait plaisir. C'est moi qui vous remercie.
Pour plus d'informations, on peut aller sur le site laressource.tv. On y trouvera évidemment toutes les activités de l'organisme à venir, comment devenir membre aussi et surtout comment les supporter dans leur mission.
Sur les ondes du canal M, vous écoutez « Ça vaut le détour » avec Maxime D. Pomerleau.
Sophie Chabot est photographe et artiste visuelle dont la pratique artistique tourne autour de l'identité, la quête de soi et la communication par l'image. Elle nous parle de son nouveau projet artistique, l'exposition DI ou ID, et on la joint au téléphone. Bonjour, Madame Chabot.
Bonjour.
Donc, ce projet artistique intitulé DI ou ID pour déficience intellectuelle ou intelligence différente, parlez-nous de la naissance de ce projet.
Là, en fait, c'est un projet qui sur lequel je travaille depuis un an maintenant. Donc, j'ai fait une demande pour avoir une bourse au Conseil des arts et lettres. Et j'ai eu le financement. Donc, le projet a commencé là, en septembre dernier. On a débuté par 10 rencontres. Donc, sur 10 semaines, j'ai fait des ateliers d'art avec des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle. Et suite à ça, donc on a créé ensemble beaucoup de choses avec plusieurs médiums. Moi, j'ai tout numérisé ça. Et l'objectif du projet était d'aller créer une exposition, d'aller créer des œuvres à partir de cette matière-là, ou en m'inspirant, en fait, de leurs œuvres, de leur travail.
Quelle forme prenait leur travail? Est-ce qu'on parlait plus de peinture ou c'était vraiment art visuel varié?
On est allé dans plusieurs directions. Donc, il y a eu de la peinture, il y a eu du dessin, il y a eu des collages aussi. Puis, on a travaillé avec l'argile en modelage aussi. Mm-hmm. Donc, ça, ils ont vraiment beaucoup, beaucoup apprécié découvrir l'argile, le modelage, tout ça, la matière. Là, ça a été une belle découverte pour eux, je pense.
Et comment est-ce que vous avez récupéré ces œuvres-là pour en créer de nouvelles, finalement?
En fait, ben moi, j'ai tout numérisé ça, donc avec les appareils photo, j'ai tout mis ça sur l'ordinateur, et là, j'avais donc une grosse banque d'images. Et à partir de ça, toute la réflexion, en fait, du projet était le questionnement déficience intellectuelle ou intelligence différente. Donc, est-ce qu'on parle d'une étiquette, d'une déficience, ou est-ce que ce serait pas plutôt une force qu'ils ont, mais qui est une intelligence qui est différente? Donc, il y a une forme différente de ce que la majorité des gens dans la société ont. Et en fait, c'est vraiment autour là, de cette réflexion-là sur la différence que les œuvres ont été créées, donc, finalement. J'ai vraiment découvert des personnes très, très aimable, vraiment. Et ce qui m'a surtout marqué chez eux, c'est ils ont beaucoup moins de filtres que moi ou que nous, qu'on peut s'imposer parfois. Donc, ils vont être très transparents, très authentiques dans l'expression de qui ils sont. Et pour moi, ça a été vraiment, c'est vraiment une force que j'ai remarquée chez eux et que j'ai voulu vraiment intégrer dans les œuvres.
Et oui, parce que vous disiez même en entrevue que parfois vous changez le médium pour intégrer les œuvres avec des notions de transparence, d'absence de filtre. Donc, vous créez vraiment des parallèles avec les autres artistes avec qui vous avez travaillé.
Oui, vraiment, vraiment. Donc, il y a toute une section là, des œuvres qui vont être vraiment des œuvres des participants, donc brutes. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est que je les ai déconstruites sur l'ordinateur. Donc, défaites pour les mettre en couches, et on a fait imprimer ça sur des acétates. Donc, ça va être présenté comme ça, en superposition, pour aller vraiment chercher cette notion-là, cette qualité-là que moi j'ai vue chez eux, qui était vraiment l'absence de les filtres et la transparence. Donc, je voulais ça, c'était des choses très importantes, je pense, parce que selon moi, c'est vraiment quelque chose qu'ils ont à nous apporter. C'est quelque chose qu'on a beaucoup à apprendre d'eux comme société, à être transparent, à être vrai. Il y aurait probablement moins de problèmes relationnels, peut-être, là, si on était plus constamment, en fait, dans notre vérité, tu sais, dans nos relations avec les autres.
Mm-hmm. Sophie Chabot, vous êtes aussi infirmière lorsque vous n'êtes pas dans la création. Oui. De quelle manière votre autre travail vous nourrit-il dans votre démarche artistique?
Ah, mon Dieu, ben je pense que c'est sûr que mon travail d'infirmière a forgé beaucoup ma personnalité. Ça fait déjà 12 ans là, que je pratique le métier. Donc, c'est comme si forcément d'être en contact constamment avec la maladie ou beaucoup la dégénérescence du corps. J'ai travaillé beaucoup avec des personnes âgées aussi atteintes d'Alzheimer. Donc, tout ça, forcément, ça nous ramène à l'impermanence de la vie, du corps, puis ça nous ramène à l'essentiel, à qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est vraiment nécessaire dans la vie. Donc, pour moi, les personnes que j'ai rencontrées dans ces ateliers-là, les personnes qui vivent avec une déficience, ils sont vraiment, vraiment dans leur essentiel, vraiment dans ce qui est essentiel, dans le relationnel, tout ça, donc dans le brut, dans le vrai. Mm-hmm. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Donc, ouais, je pense que ma pratique d'infirmière m'a amenée à développer vraiment le côté humain, le côté social et à l'empathie envers l'autre. Mm-hmm. Donc, Oui.
Ben, c'est une très bonne réponse. C'est très complet. On voit vraiment que vous inspirez beaucoup des gens autour de vous, des gens que vous côtoyez, ce qui peut parfois être davantage perçu comme une faiblesse. En fait, vous voyez ça comme des forces et c'est ce qui vous inspire dans votre travail.
Oui, tout à fait. Vraiment, vraiment.
Qu'est-ce que vous souhaitez que le visiteur retienne de votre exposition? Est-ce qu'il y a un message particulier que vous voulez passer?
Oui, bien tout à fait. Bien, comme vous venez de le dire, hein, en fait, ce que vraiment j'aimerais que les gens retiennent, c'est que ben la différence, souvent on va le percevoir comme quelque chose de négatif, justement, comme une faille ou une faiblesse qu'on a, alors que ça peut aussi être notre force, notre unicité, ce qui fait qu'on est une personne unique à part entière et puis qu'on a quelque chose à apporter. Donc, vraiment, cette réflexion-là, une ouverture sur la différence, une ouverture sur la différence des autres, mais je veux aussi amener les gens à tourner leur regard vers eux-mêmes puis à réfléchir sur leur propre différence à eux. Mm-hmm. Parce que c'est facile de dire, bon, ben ces personnes-là, ils ont une déficience intellectuelle, par exemple, ou ces personnes-là, ils ont un diagnostic, donc ils sont différents. Mais attention, moi, comme personne, je suis aussi différente de tout le monde autour. Donc, chacun, on a nos différences. Certains ont une étiquette appliquée sur leurs différences. D'autres, l'étiquette est moins apparente. Mais je pense que j'aimerais amener les gens vraiment à faire cette réflexion-là. Et pour ça, il va y avoir, lors du vernissage et puis pour les visiteurs de l'exposition, en fait, une œuvre évolutive qui va être là. Et à la fin de la visite de l'exposition, les gens vont être vraiment invités à faire cette réflexion-là, à l'indiquer sur une étiquette ou un post-it et à l'appliquer sur une fenêtre. Et donc, tous les visiteurs ensemble de l'exposition on va créer une œuvre par les spectateurs, en fait. Là.
Donc, c'est vraiment aussi interactif.
Oui, tout à fait, c'est ça. J'ai intégré, oui.
Cet aspect-là d'interactivité pour aussi amener encore plus le visiteur à se questionner sur son individualité. Le vernissage dont vous venez juste de parler aura lieu le 17 mars prochain, oui. Dans le cadre d'un 5 à 7 à la bibliothèque Madeleine Bélanger à Princeville. Est-ce que les artistes seront présents aussi?
Oui, tout à fait. C'est ça qui va être vraiment intéressant là, lors du vernissage. Donc, ils vont tous être là avec des proches à eux et tout ça. Donc, ça va être une belle rencontre, une belle occasion là, pour les gens de venir les rencontrer, de venir discuter avec eux de leur expérience et tout ça. Et je pense qu'ils ont très hâte, en tout cas. Ils sont très contents là, du vernissage.
Une grosse journée qui s'en vient pour eux. Merci beaucoup. Sophie Chabot, vous êtes photographe, artiste visuelle et justement dont cette pratique s'inspire beaucoup des gens. Cette exposition DI ou ID, et on le dit ID seulement les lettres I et D. Donc DI ou ID qui aura lieu à la bibliothèque Madeleine Bélanger de Princeville du 17 mars au 14 avril. On vous souhaite un bon succès.
Je vous remercie énormément.
Vide et puis espère qu'on pourra lire à travers SOS écrit avec de l'air pour te dire que je me sens seule. Je dessine à l'encre vide un désert et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent comme des lianes nouées de tresse, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Difficile d'appeler au secours quand tant de drames nous oppressent et les larmes nouées de stress étouffent un peu plus les cris d'amour de ceux qui sont dans la faiblesse et dans un dernier espoir disparaissent. Et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent comme des lianes nouées de tresse, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Tous les cris des SOS marche à la vie. Je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent, comme des lianes nouées de tresses, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie.
Vous l'aviez reconnu, tous les cris, les SOS, interprété par Zaz, c'est sur un album hommage à Daniel Bellavoine, qui est l'original de la pièce, mais nous, on connaît surtout cette version de Marie-Denise Pelletier, popularisée en 1987. On se retrouve un peu dans les années 80, ce midi. C'est toujours bien de faire un petit saut en arrière parfois. Je retrouve en studio Isabelle Ducharme, présidente de Kéroule pour la chronique mensuelle Tourisme sur les ondes de Canal M. Bonjour.
Bonjour.
Donc, on voit quand même un petit teint un peu bronzé.
Oui, quand même, une semaine, ça aide.
Ça aide toujours au soleil. Un dernier voyage au Mexique tout récemment que tu as fait. On sait que le Sud, c'est une destination incontournable, en fait, dans les agences de voyage, dans les destinations particulièrement pour les Québécois qui veulent se sauver de l'hiver.
Exact.
Comment s'est passé ton séjour au Mexique?
En fait, de façon générale, ça s'est bien passé. Le Mexique a quand même une bonne intention dans son accessibilité. Comme bien d'autres endroits, je pense qu'ils réalisent tranquillement l'importance de la clientèle des personnes avec différents types de déficiences, particulièrement les personnes qui se déplacent en fauteuil roulant. On le sait, on a de la difficulté à se déplacer dans la neige, alors on cherche des endroits où on peut aller se déplacer un peu pendant une semaine, deux semaines, même voire un mois parfois, là, sans penser à « est-ce que je vais être capable de sortir de chez moi parce qu'il y a de la glace ou de la neige?
Mm-hmm. »
Donc, le Mexique fait pas exception. Je vous dirais qu'au niveau des hôtels, de façon générale, on a de plus en plus d'accessibilité dans les destinations soleil en général, comme Cuba, République, etc. Moi, j'ai plein d'amis qui voyagent qui me disent « Ah, j'étais dans tel hôtel en République dominicaine ou à Cuba, c'était super bien adapté. » Le problème se trouve souvent au niveau du transport.
OK.
Donc, si on va à Cuba, si on va en République dominicaine, souvent on va nous dire « Oui, oui, il y a du transport, mais finalement, c'est que le fauteuil roulant peut se mettre dans un pick-up en bon québécois à l'arrière. Nous, il faut se transférer. Puis ensuite, quand c'est un fauteuil motorisé, on oublie ça, c'est impossible. » Où on risque de le briser.
Oui, oui, non.
Donc, ça devient assez complexe.
C'est à prendre quand même en considération. Et Isabelle, juste pour clarifier, toi, tu étais dans quelle région du Mexique?
Moi, j'étais à Cancun, dans la région de Cancun, Riviera Maya, plus précisément cette fois-ci à Tulum. Ce n'est pas mon premier voyage dans la région. Dans le passé, j'ai fait des voyages justement parce que j'étais en fauteuil manuel dans d'autres destinations soleil. Maintenant que je suis en fauteuil motorisé, je le fais vraiment dans la région de Cancun, Riviera Maya. Parce que j'ai rencontré la dame qui s'occupe du transport adapté là-bas. C'est au même endroit. Elle fait autant des organisations de tours pour aller visiter différents sites, donc dans un véhicule qui est sécuritaire. qui est déjà beaucoup. Hein. Souvent, quand on réserve à l'avance dans un endroit qu'on ne connaît pas, surtout au Mexique, on entend toutes sortes d'histoires. Mm-hmm. On a peur un peu. Est-ce que ça va être sécuritaire? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on me dit que je vais avoir comme service? Elle a des véhicules en bon ordre. C'est vraiment important pour elle, non seulement d'offrir un bon service, mais qui est sécuritaire. Elle parle, bien sûr, espagnol, ses employés aussi. Ils se débrouillent très bien en anglais. Pour l'instant, ils n'ont pas d'employés qui parlent français, mais quand même, ils se débrouillent très bien. On peut faire des réservations par Internet, par téléphone. Je voudrais pas oublier que c'est Cancun Accessible, le nom de l'entreprise, si vous voulez la trouver sur Google. Et son site web est très facile, cancunaccessible.com. Prendre en considération que c'est un nom espagnol, donc il y a un S à accessible si vous faites la recherche. Mm-hmm. Et ce qui est intéressant, que je n'ai pas retrouvé ailleurs dans mes recherches Destination Soleil, c'est qu'elle a aussi des infirmiers ou des préposés qu'elle peut nous référer si on ne veut pas payer en double dans nos déplacements. Donc, amener une préposée avec nous ou un préposé, elle peut offrir ces services-là aussi.
C'est vrai, c'est quelque chose qui est très important, effectivement, de réfléchir et de planifier lorsqu'on part en voyage.
Ben, ça peut être un frein, certainement, là, de penser, ben je veux partir, mais j'ai besoin de quelqu'un pour m'accompagner absolument, pour me donner mes services. Est-ce que j'ai les moyens de payer pour deux personnes? Quelle sorte d'entente que je peux prendre avec cette personne-là? Certains préposés vont dire, tu me payes le voyage, c'est parfait. Certains vont dire, ben j'ai mon hypothèque à payer pareil, fait qu'il faudrait que tu me donnes un salaire. Donc, c'est à considérer. Je connais aussi, je sais qu'il existe le même genre de service à Puerto Vallarta. Par contre, je ne l'ai jamais expérimenté. Fait que je serais moins enclin à vous dire « allez-y », poser peut-être plus un peu de questions avant d'y aller, mais sachez que ça existe aussi pour cette région-là, qui se trouve à ce moment-là, parce que Cancun, Riviera Maya, se trouve du côté est du Mexique, donc plutôt dans le golfe du Mexique, alors que Puerto Vallarta est de l'autre côté du Mexique, vers vraiment l'océan. Donc, ça peut être une chose à considérer là, dans ses recherches.
On connaît tout de même la région de Riviera Maya comme étant une destination magnifique. On voit beaucoup de photos de sites historiques aussi. Est-ce que ça peut être compliqué de visiter des sites historiques? On parle vraiment de sites qui ont plusieurs centaines, si ce n'est pas des milliers d'années de construction. On ne parle pas de quelque chose de très récent, de 200 ans ou des 50 dernières années. Oui. Comment est-ce que ça se passe?
En fait, il y a des sites à choisir définitivement en fonction de l'accessibilité, comme par exemple si on parle de Chichen Itza, qui est un lieu où il y a des pyramides, le lieu que j'ai visité moi cette année, il a été adapté au fil des ans pour justement être plus accessible à tous. Donc, on a accès au terrain complètement, on peut faire le tour. Je vous conseille fortement de prendre un guide touristique qui va pouvoir vous expliquer. Parce que sinon, on arrive là, il y a une belle grosse pyramide dans le milieu, il y a quelques bâtisses, bien sûr, qui datent de très loin, donc qui sont remplies de trous qu'on ne comprend pas mm-hmm. trop pourquoi ils sont là. Avec un guide, on comprend tellement de choses. Moi, je serais restée à l'écouter encore quand il a dit « Bon, ben là, j'ai fait le tour. » J'avais le goût de dire « Mais est-ce que je peux vous payer une heure de plus pour que vous m'en disiez plus? » Parce que là, on comprend toute l'histoire des calendriers mayas. On comprend l'emplacement de chaque bâtisse avait une raison spécifique, soit pour la projection de la voie quand il y avait des énoncés de prêtres, soit pour justement calculer quel jour on est rendu, quelle heure il est, etc. On nous explique que pour une autre bâtisse, ça va être pour comment ici il y a eu des sacrifices et comment ça se passait. Vraiment, c'est très, très intéressant. Par contre, la dame de Cancun Accessible m'expliquait que si elle avait été avec quelqu'un qui peut-être se déplace moins facilement, mais qui peut marcher, elle serait allée à un autre endroit qui est encore qu'on a conservé encore plus dans son
intégrité.
Voilà. Donc, qui est encore plus intéressant parce qu'on le vit encore plus, on passe à travers la jungle, etc. Mais avec quelqu'un comme moi, en fauteuil motorisé, c'était pas possible. Donc, de poser les questions à quelqu'un, soit comme la dame de Cancun Accessible qui est très disponible, ou du moins à quelqu'un qui y est déjà allé, ça peut être très intéressant.
Justement, on parle de l'importance bien planifié. On sait que, bon, tu as nommé des ressources qui sont disponibles pour qu'on puisse bien planifier ce type de voyage. J'aimerais tout de même qu'on parle de comment faire face aux imprévus, car tu as vécu un imprévu.
Oui. En fait, j'imagine que tu parles de la chambre quand je suis arrivée.
Parle de cette fameuse chambre d'hôtel. On peut raconter brièvement ça s'est passé.
En fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai réservé à l'avance une chambre qui était adaptée. J'ai choisi d'ailleurs le resort où j'allais en fonction qu'il y avait de la disponibilité pour la chambre adaptée. Et quand je suis arrivée, la chambre n'était pas une chambre adaptée. Et quand j'ai posé la question, on m'a dit, je ne vois rien dans votre dossier qui fait état d'une demande de chambre adaptée. Alors, les deux premiers jours, je n'ai pas eu accès à une chambre adaptée. On m'a transféré dès qu'il y en a une qui s'est libérée. C'est souvent un problème vers les destinations soleil. Peu importe le besoin, on tombe, quand on fait une demande de chambre accessible, on met ça dans la même case que j'ai fait une demande avec vue sur la plage ou j'ai fait une demande accès à la piscine. Donc, il y a du travail à faire là. Par contre, moi, j'étais au Dreams Tulum, que j'ai beaucoup aimé, qui était magnifique, qui m'a donné même accès à la plage, ce que peu d'endroits peuvent me donner. On m'a dit, c'est très important, pour eux font cette possibilité-là, ont cette possibilité-là de réserver, et on m'a dit de reconfirmer une semaine à l'avance et qu'à ce moment-là, elle sera officiellement bloquée. Mm-hmm. Donc, je le dis souvent aux gens qui font affaire, soit qui font leur réservation par eux-mêmes ou avec un agent de voyage, l'importance de faire le rappel à la fin. Je ne l'ai pas fait, j'aurais dû, mea culpa, et je le retiendrai. Peut-être aussi dans votre planification, prendre en considération ce que vous avez envie de faire. Parce que dans la région de Cancun, Riviera Maya, il y a beaucoup de destinations, Playa del Carmen, Tulum, Cancun. Dépendant de ce que vous aimez faire, si vous aimez, vous avez le goût de sortir le soir, d'aller dans des discothèques, d'être vraiment dans le feu de l'action, je vous conseille fortement Cancun même, la ville. Si vous avez plus le goût de relaxer, de profiter des plus belles plages, de vraiment juste rester sur un resort et faire la coulée douce, à ce moment-là, vous pouvez aller plus dans la région de Riviera Maya, dans Playa del Carmen, Cancun, etc. Pas Cancun, mais Tulum. Ce sont des endroits vraiment qui s'y prêtent parfaitement.
Il nous reste quelques minutes. Je voulais que tu nous parles du fait que sur place, là-bas, tu as aussi fait des activités avec d'autres personnes en situation de handicap qui vivent dans le secteur.
Oui, ça a été un pur bonheur. Cancun Accessible a décidé, quand j'ai fait part de mon intérêt à aller à Chichen Itza, on m'a suggéré d'amener deux personnes locales, donc deux Mexicains ou Mexicaines, qui n'auraient jamais pu visiter les lieux avant parce qu'ils sont dans le besoin, parce qu'ils n'ont pas d'argent, à se joindre à notre aventure. Donc, j'ai rencontré un jeune homme et une jeune femme très sympathiques et qui étaient très, très heureux de pouvoir enfin aller visiter les pyramides. Donc, on a dîné ensemble, on a jasé. Et ce sont devenus, bien sûr, mes amis Facebook. Donc, ça a été vraiment une belle action qui a fait du bien et qui a été, je pense, aussi valorisant pour eux que pour moi.
Et parce que, oui, effectivement, tu soulèves un bon point. Et ça prend une accessibilité physique au lieu, mais il y a aussi l'accessibilité financière qui entre en ligne de compte.
Et sachez aussi qu'il y a d'autres activités que vous pouvez faire qui sont très intéressantes. Si vous êtes moins intéressé par l'histoire, etc., il y a le Cirque du Soleil maintenant qui a un spectacle en permanence et vous pouvez aller visiter des endroits où vous allez voir des tortues, des dauphins. Vous pouvez même nager avec les dauphins.
C'est possible est-ce qu'il y a l'équipement pour assurer un bon transfert, un transfert sécuritaire d'un fauteuil roulant jusque dans la mer?
Pour ce qui est des dauphins, c'est un peu plus complexe. On nous aide là, à nous transférer manuellement, tout ça. Par contre, vous avez plusieurs endroits qui ont des chaises qui permettent d'aller dans la mer. Soit certains hôtels l'ont, mais sinon, Cancun Accessible peut vous en louer aussi. Des fauteuils roulants qui peuvent aller dans la mer. Donc, c'est très intéressant.
Donc, vraiment, on voit que tout de même, sur place, ça se développe. Il y a de plus en plus de ressources qui sont disponibles pour les voyageurs, les touristes qui sont en situation d'handicap.
Et gardez en tête que Kirol a aussi formé des agents de voyage pour vous aider dans votre planification.
En terminant, Isabelle, justement, as-tu un conseil peut-être pour une période de l'année peut-être qui est plus propice pour visiter ou tout simplement à l'année, ça semble tout
ça
même
dépend
accessible.
Vraiment de votre degré d'endurance de la chaleur, mais il est certain que mars, avril sont nécessairement les mois les plus confortables. On est plus sûr de la température. Sinon, septembre peut être une bonne option aussi si vous avez trop de difficultés avec la chaleur. Mais il y a de plus en plus de gens, pour ça, je trouve ça le fun de le faire là, qui disent hey, « Moi, là, je tannais des étés qui sont des hauts et des bas et qui y vont l'été. » Et c'est une belle période aussi pour le faire. Juste être capable d'endurer la chaleur.
Faut juste être capable d'endurer la chaleur. Je pense qu'on peut, faire ça pour se sauver un petit peu de l'hiver québécois. Isabelle Ducharme, présidente de Kéroul, merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience de voyage au Mexique. On
plaisir.
Peut trouver évidemment d'autres informations sur le site de Kéroul. Je remercie mes invités de l'émission aujourd'hui. Isabelle Ducharme, Sophie Chabot, Thérèse Sirois. Et on avait commencé l'émission avec Bonnie Brayton. Demain, on reçoit Sophie Longteau de Société Logique pour parler de l'accessibilité des commerces au-delà de la rampe d'accès. Je remercie mon équipe technique, Recherche Médias Sociaux, Christiane Campagna, mise en onde de Jean-Sébastien Laliberté. C'était Maxime Despomerleau pour Ça vaut le détour. À bientôt.